La première,
13h15, 14h le dimanche.
Et Dieu dans tout ça,
Pascal Claude.
Pourquoi faut-il choisir? Pourquoi faut-il renoncer à la vie affective quand on décide de devenir prêtre? Pourquoi est-ce que les prêtres ne peuvent pas se marier? À quoi sert le célibat? Que permet-il? Est-il utile pour consolider sa foi? Voilà une série de questions que se pose notre invité depuis des années. Prêtre, il l'a été. Prêtre, il a voulu le rester, mais il était contraint de choisir. C'est la règle. Aujourd'hui, David Gréa est marié, père d'un enfant, et il a décidé de témoigner. Nous l'accueillons dans quelques secondes. Vers 13h50, c'est notre grand dictionnaire des philosophies et des religions que nous ouvrirons. Aujourd'hui, le mot djihad disséqué par un islamologue. Soyez les bienvenus dans Et Dieu dans tout ça.
Le magazine des philosophies et des religions, sur la première.
Et bonjour David Gréa.
Bonjour.
Une vie nouvelle, prêtre, marié, heureux, c'est le titre de votre livre, c'est votre témoignage. Vous êtes donc aujourd'hui marié, père d'un enfant, sans doute heureux, mais vous n'êtes plus prêtre, même si c'était votre souhait de continuer à exercer cette fonction. Alors pourquoi ce mot prêtre sur la couverture de votre livre, David Gréa ?
En fait, je suis prêtre, bien sûr, parce qu'on l'est comme on est baptisé. C'est-à-dire que quand on a reçu le baptême, après, si on veut, on croit pas, on pratique pas, mais on est baptisé, on a reçu un don. La prêtrise, c'est pareil, c'est un don et on peut pas nous l'enlever.
D'accord.
Après, j'exerce plus le ministère de prêtre et donc, en effet, on ne m'appelle plus Père David.
Alors, vous avez grandi dans une famille catholique du côté de Lyon, en France, et c'est quand vous avez environ 20 ans que vous allez faire une retraite à l'abbaye de Belloc dans les Pyrénées. Vous écrivez « L'appel était là, il n'y a pas eu pour moi de voix audible de la part de Dieu ». Qu'est-ce qui s'est passé alors, David Gréa ?
C'était très simple, en fait. Parfois, c'est tellement simple que c'est d'autant plus profond. Moi, en fait, je faisais partie de ces catholiques pratiquants dont, j'étais motivé pour aller à l'église parce que je savais que j'en ressortais léger, enrichi, heureux.
Ça vous faisait du bien ?
Ça me faisait du bien. Par contre, ça changeait pas trop ma semaine. Je vivais comme mes amis, je me posais pas de questions et puis je connaissais pas la Bible. Je connaissais pas le nom de mon évêque, tout ça. Voilà, j'essayais de faire du bien. Pour moi, vivre l'évangile, c'était faire du bien autant que je pouvais. Et donc, je suis allé faire cette retraite. C'est la première fois, finalement, que je me retrouvais seul comme ça. Et je croise le moine qui va m'accompagner. Il me dit, écoute, j'ai pas le temps de m'occuper de toi tout de suite. Il y a une heure avant le prochain office, va prier, tiens. Je lui dis, mais je prie avec quoi ? Il me dit, tiens, la Bible, voilà, aujourd'hui, on lit tel passage. Et je me pose. Et au bout de 5 minutes, je savais pas quoi dire à Dieu. Je savais pas prier, au fait. Donc, je m'ennuyais. Et puis, comme je n'aime pas m'ennuyer, j'ai lu le bout de l'évangile et puis la suite, et puis la suite, et puis j'ai fini de lire l'évangile, parce qu'un évangile, c'est très court, en réalité, on ne sait pas trop ça. Et quand j'ai fini l'évangile, c'est l'évangile de Luc, et je voyais que, en fait, quoi qu'il arrive, Jésus, il trouvait le moyen d'aimer. Alors que nous, quand on nous fait du tort, quand on médit, c'est injuste, on nous frappe, on nous trahit, soit on fuit, soit on frappe. Et lui, il arrive à persévérer dans l'amour. Alors ça, vraiment, ça m'a bluffé. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette source-là ? Et en plus, comme il y avait la résurrection, bon, ça, c'est plus difficile à croire. Je me suis dit, soit c'est vrai, et là, j'ai trouvé la source de l'amour, quoi. J'ai trouvé la source de la joie, un truc qu'on n'enlèvera jamais, puisque ça a résisté à tout mal. Soit c'est pas vrai, et je connais pas mieux, au fait. Et ça a fait écho avec ce que je vivais, des amitiés, des relations... des sentiments que j'avais vécu pendant des messes.
Et c'est ça l'appel, alors ?
Exactement. C'était tout simplement, en fait, cette douce évidence que Jésus est vraiment celui qui ouvre une brèche dans notre cœur et qui nous permet d'aimer au-delà de nos capacités. Et puis, là, la question, est-ce que je pourrais pas non seulement en vivre, mais permettre à d'autres d'en vivre
et en faire du bien avec ça ? En quelque sorte, un métier pour vous ?
Ouais, c'est ça. Passer mon temps à ça. Passer mon temps à vivre cette joie et à la partager. C'est pas mal comme projet de vie.
Et déjà, à ce moment-là, il y a la question du célibat qui se pose, d'autant plus que vous avez une petite amie, mais vous décidez, à l'époque, de la quitter pour devenir prêtre. Pourquoi ?
Alors, ça va un peu vite. C'est-à-dire que, en effet, la relation s'arrête parce que je décide d'aller au séminaire, c'est-à-dire d'essayer de voir... Est-ce que cet appel, il est sincère ou pas réel ?
La formation,
voilà, c'est la
qui a duré 8 à 9 ans pour devenir prêtre.
Ouais. Et si la relation, elle s'arrête si vite, c'est que j'aimais d'une manière, je pense, très centrée sur moi. C'est-à-dire que j'étais très heureux d'être avec quelqu'un et ça me contentait, mais j'avais pas tant d'égard que ça pour la personne que j'étais censé aimer. Donc voilà, je suis pas très fier, mais je pense que c'était la situation. Et après, évidemment, quand le moine me dit « Mais si tu veux vraiment vivre cet amour, etc., est-ce que c'est pas être prêtre, ta voix ?» Je dis « Ben, je sais pas, non, enfin, c'était pas mon truc, quoi. » Et puis après, je me suis dit « En fait, c'est des mecs comme moi qui deviennent prêtres, donc globalement, c'est des garçons comme moi qui sont croyants. » Et donc là, j'y ai plus réfléchi. Et je me suis dit « Bah, pourquoi pas, ça me plairait, mais par contre, il y a le célibat. » Et le moine m'a dit, ben, de toute façon, prends ton temps. Pendant le séminaire, la question va être abordée et tu verras bien en éprouvant ce que c'est, si ça te plaira ou pas. Mmh. Et donc, c'est comme ça que j'ai choisi d'entrer au séminaire.
8 ou 9 ans de séminaire pour
vous. C'est long.
C'est long, mais on passe combien de temps à aborder la question du célibat? On passe combien de temps à parler de sexualité?
Bonne question. Donc là, il faut revenir quand même quelques années en arrière. Je pense que ça a évolué, j'espère. Pour moi, très peu. En fait, dans mes premières années, je le raconte dans le livre, justement, il y a quelques allusions et quelques paroles fortes, comme ce fameux professeur qui nous dit « Si jamais vous n'êtes pas bien, il vaut mieux prendre une femme que la bouteille. » Parce qu'avec une femme, vous avez un vis-à-vis, vous avez quelqu'un qui va résister en face de vous. Mais non, on n'en parle pas beaucoup, pas tant que ça.
Mais on vous fait des recommandations ?
Alors oui, on nous apprend, en fait, il y a autour du célibat, on essaye de nous apprendre la spiritualité qui va autour, donc pourquoi c'est bien et comment ça nous fait du bien. Et puis, donc selon la tradition, selon des textes spirituels, et puis il y a des techniques, on va dire, qui nous sont données.
Par exemple
vous invitez pas une femme chez vous, il faut faire du sport, il faut avoir une vie équilibrée, voir des amis, bien prier, être accompagné.
Mais ça marche ?
En fait, c'est super comme hygiène de vie, comme équilibre de vie, comme moyen qu'on se donne. Mais d'une part, c'est pas facile à tenir, parce que quand on est prêtre, en fait, on est accaparé H24. Donc, on n'a pas tant de temps que ça pour se détendre, voir sa famille, voir ses amis, faire du sport, lire, etc. Et puis, d'autre part, ça répond pas à la question quand elle vient fondamentalement. Là, c'est vraiment dans des retraite spirituelle ou avec l'accompagnateur spirituel qu'on peut aborder ça, mais ce n'est pas des techniques qui vont réfréner un profond désir.
Et on vous a vanté aussi pendant cette formation les vertus quelque part du célibat ?
Oui, en fait, bien sûr, de toute façon, comme on sait que le célibat fait partie du truc quand on veut être prêtre, il va falloir trouver de bonnes raisons. Le comprendre, imaginer tout ce que ça peut nous apporter. Donc, on nous aide pour ça. Et puis, nous, on a soif d'être d'accord, de s'approprier ça parce qu'on a envie d'être prêtre et du coup, de bien vivre son ministère. Et on apprend à s'approprier ça. Cette idée que le célibat va vraiment être la touche qui permet de vivre pleinement son ministère.
Et c'est une réalité ? Ou c'est un mensonge ? Ça amène quelque chose ?
En fait, la première chose que je pourrais dire, c'est que le célibat, c'est pas d'abord la misère. Il y a plein de gens qui vivent le célibat et qui font plein de bien, qui sont heureux, etc. Donc, je vais pas caricaturer ça. Il y a même des moments dans le ministère ou dans la vie où ça donne du recul, ça donne une certaine profondeur, ça apprend aussi à vivre avec soi-même, à cultiver une vie intérieure. En revanche, comme choix permanent et définitif, je pense que c'est pas quelque chose de nécessairement équilibrant, et en tout cas c'est pas absolument nécessaire pour vivre le ministère de prêtre.
Et pendant cette période-là, c'est peut-être une question indiscrète, mais qu'est-ce que vous avez fait de vos pulsions sexuelles ?
En fait, comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont pas en couple, et j'espère qu'ils ont des pulsions sexuelles et qu'ils vivent. Alors il se passe 2 choses. La première, c'est que il y a un concept en psychanalyse qui s'appelle la sublimation. Et quand on sait qu'on ne peut pas avoir de relations sexuelles, etc., on exprime ça autrement. Ça peut être un surcroît de relations, d'engagement. Il y en a justement qui vont faire leur passion, du sport ou autre chose. Et donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a l'aspect de frustration aussi qui existe. Après, bah, chacun la vit comme selon ce qu'il est, selon son histoire, selon son contexte.
Il y a la masturbation aussi.
Alors ça dépend de chacun. Mais oui,
c'est
bien
tabou,
sûr, ça fait partie de la vie. Alors c'est rendu tabou parce que bien souvent, on le pointe comme quelque chose de mal. Alors moi, j'ai eu la chance au séminaire d'entendre quelqu'un qui disait « La masturbation, c'est pas un mal, c'est un symptôme d'un déséquilibre, du fait qu'on se sent pas bien ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré en nous. » Donc, de ne pas dramatiser ça, ça fait qu'en réalité, ben, c'est peut-être une pratique qui est moins nécessaire.
David Gréa, vous dites qu'il y a une méconnaissance généralisée à propos du célibat des prêtres. Et manifestement, la question qui est sans cesse posée, c'est celle-ci. Est-ce que c'est dans la Bible ? Alors, réponse.
Dans la Bible, on a deux passages essentiels qui évoquent la question. Dans l'évangile de Matthieu, donc dans un seul évangile sur les quatre, en fait, il y a les disciples, les apôtres qui disent à Jésus, ben, est-ce qu'on peut changer de femme ? Et Jésus dit, ben non, pas changer de femme comme ça. Il dit, mais pourtant, Moïse nous a autorisé. Il dit, oui, mais il a autorisé à cause de vos cœurs endurcis, mais au commencement, c'est écrit que voilà, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et les apôtres lui répondent, ben, si c'est ça, franchement, si on ne peut pas changer de femme comme on veut, à quoi bon se marier ? Et Jésus répond à ça, ben, en effet, tous ne comprennent pas, mais il y en a qui sont eunuques de nature, d'autres par la volonté des hommes, et d'autres qui le choisissent pour le royaume des cieux. Cette phrase-là, elle a donné un point d'appui au choix du célibat pour le royaume. Et donc, c'est ce que font les religieux. Les religieux, c'est les jésuites, les dominicains, les franciscains, les salésiens, etc. Donc, eux, ils font le choix du célibat pour un témoignage. Et il y a un autre passage, c'est dans 1 Corinthiens 7, donc la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 7. Mais là, c'est un chapitre qui est dans un contexte de fin du monde. Donc Paul, il pense que ça y est, Jésus va revenir demain, après-demain, la semaine prochaine, je ne sais pas. Et donc, il dit, arrêtez de vous occuper de tout ça, centrez-vous sur Jésus. Et voilà, et si vous pouvez vous empêcher de vous marier, tout ça, vous serez mieux célibataire. Donc, c'est les deux passages essentiels sur le célibat. Et c'est tout.
Et donc, le célibat des prêtres, ça n'est pas un dogme ?
Absolument pas. Et d'ailleurs, il faut bien distinguer du coup le célibat des religieux, qui est le célibat en vue du royaume, on va dire, et le célibat... Donc, ils font le vœu de chasteté, comme on dit, ce que ne fait pas un prêtre. Un prêtre ne fait pas un vœu de chasteté. Donc là, je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui sont choqués en disant « Quoi ? Mais si ? Mais non, en fait. » Il y a trois vœux pour les religieux, chasteté, obéissance, pauvreté, et pour les prêtres, zéro. Les prêtres, eux, quand ils désirent être prêtres, si l'Église reconnaît qu'ils sont vraiment appelés à être prêtres, on leur demande alors, dans l'Église catholique latine, de s'engager au célibat. Et évidemment, on sait que c'est historique ce choix-là et qu'il ne s'est pas imposé facilement, puisque en gros, jusque quasiment au XVIe siècle, il y a pas mal de récits de prêtres, voire d'évêques, parfois de papes, qui n'ont pas tenu la règle du célibat.
Et cette règle s'est imposée quand ?
Alors, en fait, c'est à la réforme grégorienne qu'on a vraiment mis les points sur les i, hein, si on peut dire comme ça, donc au XIe siècle. Et après, la formation des prêtres, vraiment, ça commence après la Réforme, donc à la fin du XVIe siècle.
Et Dieu dans tout ça.
13h15, 14h le dimanche.
Sur la première.
L'état du célibat serait-il donc plus important que le service des fidèles ? Un questionnement, un témoignage ce dimanche, celui de David Gréa, un ex-prêtre, aujourd'hui marié et père d'un enfant. Il nous parle du célibat des prêtres. David Gréa, ce qui vous dérange notamment, c'est que le célibat contribue, selon vous, à faire du prêtre un homme extraordinaire.
Ben oui, parce que c'est toujours incroyable de voir quelqu'un qui arrive à s'engager au célibat et évidemment on lui fait confiance, donc on pense qu'il le vit bien, en tout cas qu'il essaye de bien le vivre. Et ça montre la puissance de la foi, quoi. C'est-à-dire qu'il a une foi telle que lui, contrairement à 99,9% de la population, il arrive à contrôler, avoir une vie affective paisible, une sexualité qui n'envahit pas son être et voilà, et son, peut-être ses pensées. Et donc, on voit cet homme-là qui est vraiment doté d'une capacité qu'on n'a pas, quoi. Donc, Cet homme-là n'est pas ordinaire, il est extraordinaire.
David Gréa, parlons du fil de votre vie. L'été 2010, vous racontez qu'à ce moment-là, vous allez sympathiser avec une jeune femme. Une courte histoire va naître entre vous. Avant l'été 2010, aucune aventure ?
Ah non, 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 aucune aventure. Plein de moments, enfin non, quelques moments, pas plein, où, notamment tout au début, après mon ordination, où je me suis dit, mais j'arriverai jamais à tenir le célibat. Et puis des années, certaines années très belles et très paisibles en tant qu'homme célibataire. Très heureux, développant plein de capacités, notamment quand j'ai fait mon doctorat de théologie, c'était des années paisibles.
Parce que vous étiez extrêmement occupé, notamment.
Aussi parce que j'étais occupé et puis parce que je pense qu'il y a des phases dans notre vie.
Et 2010 a été une nouvelle phase, donc ?
Ben, oui. Au fait, je devenais de plus en plus heureux dans mon ministère de prêtre. Il portait de plus en plus de fruits aussi. Et simplement, ben, le soir, je sentais une solitude grandissante. Donc j'essayais de faire ce qu'on me disait. Hein. Je voyais mon accompagnateur spirituel, je priais, j'essayais de voir mes amis, etc. Mais ça partait pas.
Qu'est-ce qui manquait ?
La tendresse, d'une part. Ça, c'était vraiment pour moi quelque chose de très important.
La tendresse de Jésus, la tendresse de Dieu, la tendresse des fidèles, ça ne suffit pas ?
Bah, déjà, c'est pas très tactile comme tendresse. C'est très doux au cœur. Mais charnellement, c'est pas très efficace. Et puis, et la deuxième chose, je sais pas comment expliquer ça, si ce n'est quelqu'un avec qui tisser le fil de chaque jour, qui fait que quand on rentre, on dit, ah, comment ça s'est passé, mais ça me rappelle ce que t'as vécu il y a un mois, et si on faisait tel projet demain. Et en fait, que chaque jour passe pas comme un jour qu'on a vécu seul, mais qu'il soit partagé, maillé, tressé avec le fil de la vie d'une autre personne.
Vous écrivez justement à propos de cet été 2010, « Un jour, je priais avec ferveur et je demandais à Dieu si je devais tout laisser pour elle. J'ai alors reçu la conviction que non, car ce n'était pas à elle que j'étais destiné, mais j'ai aussi reçu la certitude que je ne serais pas célibataire toute ma vie. » C'est Dieu qui vous a offert cette certitude, David Gréa ?
Non, en fait, si vous voulez, ça c'est une question très, très complexe, celle de qu'est-ce que Dieu veut, en fait, et comment on peut le savoir. En fait, pour moi, le discernement, il se fait vraiment dans une convergence d'indices. Et à partir de ce qu'on lit dans l'Évangile, par exemple, ce que je prêchais, le bonheur auquel Jésus nous appelle, la liberté qu'il nous donne, la manière dont l'Évangile vient concerner chaque relation, chaque engagement de notre vie, mais aussi nos expériences spirituelles, c'est-à-dire ce qu'on découvre nous-mêmes intérieurement quand on lit l'Évangile, et puis ce qu'on est personnellement. Alors on maille ça avec les événements, et c'est cette convergence qui à un moment nous fait parler. Alors moi, dans ma prière, je disais à Dieu, voilà, tu sais que je suis malheureux, en fait, comme homme. J'ai une part heureuse, celle de prêtre, etc. Là, je suis le plus heureux des prêtres. Je ne sais pas jusqu'où on pourrait étendre ce bonheur, mais vraiment très heureux. Mais tu sais, comme homme, il y a comme une sorte d'hémiplégie en moi. Et moi, je n'irai pas draguer des filles, je n'irai pas chercher une femme, mais je suis disponible. Et donc, c'était ma prière. Je disais, ben, voilà, si c'est possible, présente-moi quelqu'un.
Et puis voilà qu'arrive quelques temps plus tard une certaine Magali, elle débarque dans votre vie, elle est protestante.
Ouais, protestante
C'est la femme avec laquelle vous êtes mariée aujourd'hui.
Oui, exactement. En fait, dans l'église où j'étais, quand je suis arrivé en 2011, il y avait très peu de personnes, elles étaient assez âgées. Et donc on s'est dit comment faire pour que la joie de l'Évangile, elle soit vraiment vécue, quoi. Et qu'elle touche plein de gens.
Enfin, toutes les générations.
Voilà, l'idée, c'est pas de convertir les gens. C'est juste de leur proposer de nous rejoindre et de partager cette joie. Et donc, on s'est mis à renouveler complètement l'Église. Et ici, ce qui était important pour nous, c'est de recentrer le message sur le cœur de l'Évangile. Et donc, on a vu arriver des gens très éloignés de l'Église et de la foi chrétienne, ou aussi des personnes comme des protestants qui trouvaient plus de ressourcement dans cette église-là parce qu'il n'y avait pas de choses choquantes, parce qu'on se centrait vraiment sur ce qu'on avait de commun, en fait, sur le cœur de l'Évangile. Et donc, il y avait une trentaine de protestants, je pense, qui ne se connaissaient pas forcément, qui venaient à l'église. Elle en faisait partie.
Dont Magali, donc. Et très vite, vous avez le souhait à la fois de rester prêtre et aussi de rester avec Magali. Mais jusqu'ici, c'est impossible.
Oui, alors la relation s'est tissée tout doucement. On n'a pas, on ne s'est pas sauté dessus l'un l'autre. Hein. Surtout que pour moi, c'était important de continuer mon ministère de prêtre et pour elle aussi. Donc, on a commencé par se voir avec des amis, éviter de se voir trop tous les deux, justement, pour ne pas forcer le destin. Et puis, voilà, il y a un moment où c'est devenu évident que le discernement s'est fait et c'est devenu évident qu'en fait, cet amour que je prêchais, je voulais le vivre concrètement avec elle.
Mais vous souhaitiez rester prêtre.
Voilà. Et surtout, si vous voulez, en fait, on est vraiment été en couple fin juin. Et donc, l'été, on n'avait pas prévu de passer beaucoup de temps ensemble parce qu'on avait nos programmes. Mais en gros, de septembre à décembre, donc nous étions en couple sans que ça sache. Et moi, j'étais juste hyper heureux, en fait. Cette fois, non seulement j'avais le bonheur d'être prêtre, mais le bonheur d'être homme. Et mes paroissiens, ils me trouvaient super. Ils trouvaient que mes prédications étaient bien. Ils me trouvaient toujours aussi disponible. Et je me disais, mais là c'est vraiment... il faut que je le partage. Il faut que je le dise à mon évêque, quoi.
Et comment est-ce qu'il vous a accueilli, votre évêque ?
Il m'a très bien accueilli. En fait, c'est un peu original. On était à l'étranger ensemble. Et il sait la fécondité de mon ministère, puisqu'on est passé de 100 à 2000 paroissiens, on va dire, qui venaient régulièrement à l'église en 5 ans et demi de travail. Et moi, j'arrivais en fin de mandat, parce qu'on a un mandat de 6 ans. Donc, je ne voulais pas le continuer, ce mandat, parce que, évidemment, j'avais un autre projet. Donc, je suis allé le voir en décembre pour ne pas le mettre en difficulté par rapport à la suite de mon ministère. Et je lui ai dit, voilà, je suis très heureux comme prêtre et je voudrais vraiment continuer, mais pas seul. Je continuerai pas célibataire.
Et il vous a répondu quoi ?
Il m'a vraiment écouté. On a échangé quelques mots assez profonds. En fait, on avait une demi-heure, donc c'était court quand même pour se voir.
Oui.
Et face à la difficulté devant laquelle il était, je lui ai dit, mais vous en parlez pas entre cardinaux, avec le pape ? Comme une question actuelle, je suis pas le premier. En plus, je sais parce que à d'autres occasions, le cardinal il m'avait dit qu'une de ses plus grandes blessures, c'était d'avoir vu tant de des centaines de prêtres, et notamment ses amis, quitter le ministère dans les années 70. Donc je savais que c'est quelque chose qui comptait pour lui. Et il m'a dit, Benoît XVI, il a essayé de changer les choses, mais ça a tout de suite bloqué. Et je lui ai dit, mais si vous n'y arrivez pas, moi je veux bien voir le pape, si vous voulez.
Et vous êtes allé voir le pape à deux reprises.
Le cardinal a eu l'audace de demander un rendez-vous et le pape de l'accepter.
Il vous a reçu... Il vous a écouté, mais il n'a pas rendu possible votre souhait.
Alors, en fait, je n'avais pas de souhait, dans la mesure où je ne suis pas venu revendiquer quelque chose. J'avais un désir profond, c'était de pouvoir continuer mon ministère en me mariant. Mais je ne suis pas idiot, je connais comment ça se passe dans l'Église. Et donc, je venais présenter ce que je vis, en disant, qu'est-ce que vous en dites ? Alors, ce qu'il faut savoir, on ne le sait pas souvent, c'est que le pape n'a pas d'autorité sur un prêtre qui n'est pas un prêtre de Rome, parce que lui, il est évêque de Rome. Donc lui, il peut faire bouger des choses au niveau mondial. Donc il peut réunir un synode des jeunes ou un synode pour l'Amazonie et proposer des changements fondamentaux. Mais il ne peut pas dire, je veux que David fasse ceci ou cela. Là, il n'y a qu'une autorité pour moi, c'est mon évêque.
Et donc, comment ça s'est passé, cette rencontre avec le pape ? Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir ?
Tout d'abord... d'un homme extrêmement simple et bienveillant. C'est-à-dire que dès les premières secondes, vous pouvez imaginer qu'on peut être un peu tendu,
stressé
au moment de rencontrer le pape. Surtout que je me demandais un peu ce que je faisais là, finalement. Je me dis, moi j'ai ma petite vie de prêtre, d'homme. Je fais un choix qui est un peu transgressif. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Et en fait, à la première minute, son regard, sa poignée de main... sa manière de me mettre à l'aise, et tout stress tombé, grande simplicité d'échange. Il m'a dit, j'ai bien lu ton... Il m'avait demandé d'écrire un petit texte sur ma situation. J'ai bien lu, mais j'aimerais que tu me dises avec tes mots à l'oral. Donc moi, je lui parlais en français, il me parlait en italien. Et voilà, je lui ai longuement expliqué pendant plus de 20 minutes où j'en étais.
Et il a envie de changer les choses à ce niveau-là ? C'est pas par hasard s'il vous a reçu.
Voilà, en fait, moi, je pense que c'est mon interprétation. C'est qu'il écoutait un témoignage pour nourrir sa réflexion et la manière dont il pourrait la conduire. Il n'a pas fait mystère de son idée que des hommes mariés puissent être ordonnés dans les années qui viennent. Mmh. En tout cas, il lance la réflexion. Et s'il la lance, c'est qu'il n'est pas opposé. Mmh.
Parce qu'il a demandé à vous revoir et cette fois-là, vous étiez accompagné de votre femme.
En fait, Magali, elle avait écrit une lettre au pape des mois avant cette rencontre en me disant « Tu lui donneras ça dans la main, de main à main. » Donc ça m'avait beaucoup fait sourire. Je me suis dit que c'était une protestante bien naïve. Mmh. Mais ce jour-là, j'ai eu l'occasion de lui remettre la lettre de Magali, cette fameuse lettre de la main à la main. Il l'a lue devant moi. Et à la fin de l'entretien, il m'a demandé « Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on se voit tous les trois ?» Et donc, on s'est revus 2 jours après, tous les trois. On a échangé un peu et on a surtout beaucoup prié ensemble.
La première,
13h15, 14h le dimanche.
Et Dieu dans tout ça,
Pascal Claude.
Djihad, c'est un mot très régulièrement utilisé en ce moment, mais de quoi parle-t-on exactement? L'islamologue Guillaume Di nous rejoint dans les prochaines minutes au cœur de notre grand dictionnaire. Avant cela, suite et fin de notre entretien avec vous, David Gréa. David Gréa, vous avez été prêtre pendant 17 ans, depuis un an vous êtes marié et père d'un enfant. Vous êtes l'auteur du livre Une vie nouvelle et vous y racontez notamment votre procès. Vous vous êtes retrouvé l'été dernier devant le tribunal ecclésiastique. Qu'est-ce que l'on vous reprochait précisément?
Ben, en fait, je reçois une lettre où je suis accusé de mariage.
Accusé de mariage.
C'est des mots. En fait, c'est des mots anachroniques, si vous voulez, parce que les mots sont durs. C'est-à-dire, j'ai créé un procès pénal dans lequel tu répondras de l'accusation de mariage. Bon, c'est sûr que ça fait vraiment. J'ai l'impression d'avoir fait le meurtre qu'il fallait pas commettre. Mais évidemment, c'est des mots d'un autre temps. Par exemple, dans le récit final, en fait, on lit donc tout le compte-rendu de l'audience et la justification de la peine. Et le juge, tout le long, il m'appelle le délinquant dans le texte. Bon voilà, il faut revenir au latin pour ne pas s'affoler.
Mmh. Mais quelle a été la sanction?
La sanction, malheureusement, elle était automatique. C'est-à-dire que moi, je disais, ben, je viens plaider ma cause. Alors, j'ai un avocat ecclésiastique, un prêtre avec moi, mais qui ne connaissait pas trop le sujet. Et donc, je dis, je viens plaider ma cause. J'ai vu que dans le droit canon, on peut être prêtre marié et continuer un peu son ministère. Je voudrais, moi, continuer mon ministère. Et là, le juge me dit clairement, non, mais dans ta situation, tu sais, on est tout de suite réduit à l'état laïque. En gros, tu perds l'état clérical. C'est ça la vraie formule. Et je lui ai dit, bah alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait là? C'est une mascarade? Ah non, pas du tout, c'est pas une mascarade, etc. Je dis, si la décision est prise avant même qu'on discute. Et puis je lui ai demandé une exégèse de cet article qui permettait justement que je continue un peu mon ministère. Alors je comprends, de manière aménagée, par exemple, on pourrait dire, pour pas que ça fasse scandale, on te demanderait de célébrer la messe uniquement dans les hôpitaux, tu pourrais être aumônier de prison, je sais pas, t'occuper d'un organisme, peut-être caritatif, c'est-à-dire qu'on pourrait aménager ce ministère. Et en fait, non, il n'en était pas question, quoi. La décision était prise bien avant même que je reçoive le papier de convocation d'un tribunal.
Et vous auriez pu refuser d'assister à ce procès?
Oui, oui. En fait, pour tout dire, il y a même une vraie pression pour que je demande, moi, d'être réduit à l'état laïque, parce que ça aurait empêché toute cette mascarade. Mais moi, je voulais honnêtement aller au bout de ma démarche, c'est-à-dire ce désir que j'ai, vous pouvez dire qu'il n'est pas de Dieu, qu'on ne peut pas savoir sa volonté, que Dieu ne peut pas se contredire, qu'on ne peut pas renier un engagement. Vous dites ce que vous voulez et je l'entendrai. En fait, on peut en débattre. Mais voilà, moi, je vous dis avec sincérité où est-ce que j'en suis. Donc, j'ai voulu aller au bout pour présenter ma requête. D'autant plus que non seulement le droit canon, mais le Concile Vatican II aussi envisage cette possibilité.
David Gréa, vous êtes marié aujourd'hui, père d'un petit Léon, vous êtes devenu coach et vous écrivez à la fin du livre « Je suis là où Dieu m'attend ». Dieu vous attendait hors de l'Église?
Ah, je ne suis pas du tout hors de l'Église, je suis carrément dans l'Église, je suis toujours aussi impliqué, entre autres pour l'unité des chrétiens, d'autant plus avec ma femme.
Mais il vous attendait là, dans cette situation?
C'est la conviction que j'ai pour moi, en fait. C'est-à-dire que ça ne s'impose pas. Je dis ce que moi je ressens, ce que je discerne. J'ai quand même fait pas mal de... Non seulement j'ai gardé l'accompagnement spirituel, mais j'ai aussi fait des retraites. J'ai discuté avec mon évêque, j'ai discuté avec le pape. Voilà, ils m'ont pas dit tu te plantes, tu dois pas faire ça, s'il te plaît reviens, tu vas mettre l'église en difficulté. Non, aucun m'a dit ça. Donc même eux, quelque part, ils m'ont encouragé, peut-être malgré eux, à continuer mon chemin. Et oui, j'ai le sentiment d'être à ma place. Et par le coaching, justement, bah, je continue à accompagner des personnes, des groupes, et à les voir se développer. Et finalement, je mets ma foi à l'œuvre d'un point de vue laïque. Ça me va bien.
Vous allez mener un combat pour que les choses changent, pour que les lignes bougent, pour que les prêtres puissent se marier ?
Non. En fait, moi, je ne fais pas un acte de militance. J'essaie de raconter ce que j'ai vécu.
En revanche, ce témoignage, c'est déjà une manière de s'engager.
Oui, c'est vrai. Ce que j'aimerais vraiment, parce que donc vous avez compris, j'ai fait pas mal d'études de théologie aussi. Ce que j'aimerais, c'est qu'au moins, on puisse faire l'état des lieux de certaines questions. Par exemple, l'idée que dès qu'on est ordonné, on a la grâce d'être célibataire. Que forcément, oui, on pourrait envisager que des hommes mariés soient prêtres, mais absolument pas qu'un prêtre se marie. Et en fait, c'est des positions un peu doctrinaires, un peu dépensives, et il y en a d'autres comme ça. Est-ce qu'on peut faire l'état des lieux de ça ? Et si jamais il y avait des hommes mariés ordonnés, quel serait leur ministère ? Et oui, j'aimerais vraiment contribuer à ça.
De quelle manière ?
Bonne question. Écrivez-moi. Il y a un site.
J'imagine qu'à la suite de la publication de ce livre, vous avez dû recevoir peut-être des témoignages, peut-être prêtres qui sont venus vous parler.
Oui, beaucoup d'hommes et de femmes aussi, de femmes qui ont une relation avec un prêtre ou qui sont avec un prêtre. Autant je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, contrairement à ce qu'on pense, qui sont en couple. Autant c'est une vraie réalité, parce que en fait, la plupart des prêtres qui sont tombés amoureux et qui voulaient vivre avec cette femme, ils l'ont fait. Donc oui, j'ai pas mal de témoignages. Ben, vraiment, je pense, pourquoi pas fédérer ces témoignages et encourager la réflexion. Mais moi, mon but, c'est pas de dire à l'Église, il faut faire ceci, il faut que ça change, il faut décider cela. C'est plutôt d'offrir ces témoignages, d'offrir une réflexion, d'offrir une plateforme d'examen scientifique, théologique, philosophique. Et après, ben, aux responsables de prendre leurs responsabilités.
Un mot encore sur l'Église d'aujourd'hui, l'Église catholique d'aujourd'hui. Vous en parlez pas mal dans le livre. Vous dites à un moment, oui, elle s'endort.
Elle s'endort sur ses richesses. En fait, c'est temps de se réveiller. Moi, je l'ai vécu dans ma vie. Et c'est un témoignage que j'aimerais vraiment partager. C'est que dans nos vies, on peut avoir des relations lourdes au travail, dans nos familles. Voilà, on peut être dans des situations, dans des contextes difficiles. Et ça nous endort, en fait. Mais même nos richesses, nos réussites, ce qu'on a bien fait, nos entreprises, elles s'endorment. Leurs histoires, leurs traditions, c'est le cas de l'Église. Quelquefois, on oublie, en fait, toute la force qu'il y a dans cette Église et cette capacité à donner du bonheur à ceux qui s'y retrouvent, mais aussi à ceux qui vont en bénéficier, qui ne sont pas croyants, d'autres religions, peu importe, mais ils vont profiter d'un rayonnement. Moi, je me suis, quelque part, j'ai vécu un réveil et j'espère que l'Église en connaîtra un. Et je pense qu'elle est sur le point de le connaître.
Et pourquoi ?
Parce que d'une part, il y a quelque chose dans l'air du temps. On sent qu'on ne peut pas continuer sur un modèle ancien. En fait, il y a plein de gens qui essayent de cléricaliser, que ce soit des laïcs ou ou des prêtres, de mettre du pouvoir, de vouloir que ce soit toujours la même chose, de surtout rien changer. Mais en fait, ceux-là, ils fleurissent leur tombe, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils sont déjà morts. En revanche, on voit qu'il y a vraiment des mouvements nouveaux dans l'Église, des désirs nouveaux, des laïcs qui s'impliquent. Des prêtres aussi qui ont envie que ça change. Et il y a beaucoup de prêtres zélés, énormément. J'en connais même à Bruxelles, en Belgique aussi. Et ça, oui, c'est des prémices de ce qui arrive.
À quoi devrait ressembler idéalement ce réveil de l'Église catholique, David Gréa ?
Des prêtres qui soient concentrés sur leur ministère et pas sur une responsabilité qui doit être partagée avec des laïcs. Benoît XVI, il a eu cette formule. Il est important que les laïcs soient considérés comme des co-responsables de la mission de l'Église. En fait, c'est une paroisse...
Il faut davantage les impliquer.
Voilà, c'est-à-dire, moi je vous donne un exemple simple. On m'avait reproché, on m'avait dit, en fait, oui, l'Église de David, elle est très vivante, elle est très attrayante, mais en fait, tout repose sur lui. Je suis parti, et brutalement, parce qu'on m'a demandé de partir brutalement, et cette Église, elle est toujours aussi vivante. Pourquoi ? Parce qu'elle est construite sur une vision portée par les membres de l'Église. Et moi, je venais aider... Avec mon charisme propre personnel et mon ministère propre de prêtre, je venais contribuer au projet d'une église, d'une paroisse. Aujourd'hui, l'église, elle se renouvellera par ses membres, pas par ses prêtres.
Merci à vous, David Gréa, pour ce témoignage. Une vie nouvelle, prêtre, marié et heureux. C'est le livre que vous signez. Merci à vous et bonne journée.
Merci à vous.
La première,
13h15, 14h le dimanche.
Et Dieu dans tout ça,
le magazine des philosophies et des religions.
Et place à notre grand dictionnaire des philosophies et des religions. Aujourd'hui, un mot qui ne cesse de s'imposer dans l'actualité, le mot djihad. Bonjour Guillaume Dean.
Bonjour.
Vous êtes islamologue, professeur à l'ULB. Quelle est la définition, ou plutôt les définitions du terme djihad?
Alors si on s'en tient à la lexicographie, djihad, cela veut dire un effort intense. S'efforcer, ça vient du verbe jahada, qui veut dire s'efforcer avec insistance. Le verbe jahada, de la même racine, lui veut dire simplement s'efforcer. Donc il y a la notion d'un effort insistant qui est impliqué dans ce terme. À partir du XIe siècle, on trouve souvent une distinction dans certains milieux, notamment soufis par exemple, entre le petit djihad, qui serait le djihad guerrier, celui le djihad par les armes, et un grand djihad, qui serait un djihad mené contre ses passions, mené contre soi, un effort sur soi. Cette distinction donc entre un djihad guerrier et un djihad plus pacifique est cependant une distinction relativement tardive, puisqu'elle apparaît essentiellement au XIe siècle dans les traditions islamiques. Initialement, le terme désigne en fait le combat sur le chemin de Dieu. Les occurrences du verbe jahada ou du terme djihad dans le Coran sont souvent suivies de l'expression fi sabilillah, autrement dit sur le chemin de Dieu, et le contexte montre clairement qu'il s'agit en fait d'un djihad par les armes. Autrement dit, d'un effort sur soi, mais qui passe par le combat armé sur le chemin de Dieu. Donc même si la signification du terme djihad n'est pas guerre sainte, mais un effort important, la désignation, la dénotation du terme djihad dans les sources scripturaires de l'islam correspond à ce que l'on appelle habituellement guerre sainte.
Et aujourd'hui, c'est bien du petit djihad dont on parle beaucoup dans l'actualité.
Alors effectivement, beaucoup de ce qu'on appelle les djihadistes se réfèrent effectivement à cette notion du djihad qui est très présente dans les sources scripturaires de l'islam, que ce soit dans le Coran, nous avons une 35 occurrences à peu près dans tout le texte de termes de cette racine, ou que ce soit effectivement dans les recueils de hadith ou les traités de droit, où nous avons très souvent des livres du djihad, par exemple, qui indiquent les règles à suivre pour mener donc ce combat armé sur le chemin de Dieu.
Donc on ne peut pas dire que les islamistes instrumentalisent ce mot djihad ?
Non, on ne peut pas effectivement dire qu'il dénaturerait le sens initial du mot. Ce qui est vrai, bien sûr, c'est que dans l'histoire de la tradition islamique, il y a tout un ensemble de penseurs, de courants, qui ont aussi cherché tout de même à bien maîtriser, je dirais, les conditions durant lesquelles un djihad pouvait être mené. Donc ça passait à la fois par un certain nombre de traditions qui exaltaient d'autres manières de faire un effort sur soi. On pense par exemple à une tradition, une parole attribuée à Mahomet et disant que l'encre des savants a plus de valeur que le sang des martyrs. Une façon de dire que la recherche de la connaissance religieuse permettait d'accéder au salut d'une manière meilleure que celle du martyr, ce qui était une façon de ne pas inciter les gens à chercher le martyr et le combat armé. Il est vrai aussi que beaucoup de juristes de l'islam classique ont cherché à établir les conditions précises pour savoir qui avait le droit d'appeler les musulmans au djihad. Et que dans la situation, on va dire, politique et sociale actuelle du monde musulman, on voit de plus en plus de gens qui se considèrent comme habilités à appeler au djihad. Mais il faut, je dirais, quand même regarder les textes avec lucidité. Il y a, bien entendu, dans les sources scripturaires de l'islam, c'est la présence de cet élément violent et guerrier. Mohammed était un guerrier, entre autres choses. Et cela fait partie, je dirais, des problèmes que l'islam contemporain sur lesquels il doit réfléchir, à savoir le rapport herméneutique que l'on a à des sources qui contiennent, effectivement, une approche de la violence sacrée qui peut, effectivement, longtemps plus tard, être mobilisé dans des combats moins recommandables.
Y réfléchir, ça veut dire faire quoi, Guillaume dit ?
Ça peut vouloir dire peut-être parvenir à une contextualisation plus fine de ces passages. C'est peut-être aussi abandonner la lecture littérale, souvent suivie par un certain nombre de musulmans. C'est sans doute aussi réfléchir à ce qui, dans les sources scripturaires de l'islam, relève de la légende peut-être et de la réécriture de l'histoire au 8e, 9e siècle et ce qui pourrait remonter éventuellement au 7e siècle. Là-dessus, il y a tout un travail de critique historique à faire qui n'est évidemment que rarement fait.
Merci à vous, Guillaume Di, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes islamologue et professeur à l'ULB. Merci à vous et bonne journée.
Merci, bonne journée également.
C'était Et Dieu dans tout ça. Merci d'avoir été là. Ce numéro est déjà disponible sur notre plateforme Ovio. Bientôt 14h sur la première à suivre les infos et le classique du dimanche. Passez une belle après-midi.
Et d'ailleurs, il faut bien distinguer du coup le célibat des religieux. Donc ils font le vœu de chasteté, comme on dit, ce que ne fait pas un prêtre.